Merci. Benjamin Constant de Rebec, hein, c'est son véritable nom, né à Lausanne en 1767 et mort à Paris en 1830. Voilà pour situer très rapidement et schématiquement. Je vais vous donner un peu le plan de mon exposé. D'abord, rappeler certains éléments historiques. Ensuite, voir quelles sont les trois facettes de Benjamin Constant. Finalement, il y a trois Benjamin Constant. Le premier, c'est un homme, le peintre des paysages intérieurs. Hein, c'est l'égotisme, l'introspection, c'est Adolphe. Hein. Le deuxième Benjamin Constant, c'est l'homme qui réfléchit à la politique, hein, ce qui a été évoqué à l'instant même, et qui, pour ce faire, interprète la Révolution française. C'est donc le deuxième. Et le troisième, c'est le Benjamin Constant qui est souvent ignoré. Hein, le premier, le deuxième est un peu connu. Le troisième, c'est celui qui a écrit cette somme, hein, son grand ouvrage. Il a mis 40 ans pour l'écrire. À chaque fois, il revenait, il écrivait un nouveau chapitre. C'est son grand ouvrage sur la religion. Hein. On verra ça, hein, c'est la troisième partie. Donc, Benjamin Constant de Rebec, qui était orphelin de mère, hein, comme Rousseau d'ailleurs, hein, qui a fait ses études à Oxford, à Erlangen, à Édimbourg, qui occupe de 1787 à 1794 le poste de chambellan à la petite cour allemande de Brunswick. Et en 1794, il rencontre Germaine de Staël, hein, c'est la grande rencontre, une liaison de 14 ans. Hein, avec querelles et réconciliations multiples, était venu à Paris de Lausanne, enfin de Suisse, avec elle. Et c'est là qu'il entre dans la politique active et qui devient l'un des membres les plus écoutés des cercles libéraux. Hein. Et après le 18 Brumaire, Bonaparte le nomme membre du tribunat. Et la loi de 1790 donnait la nationalité française aux descendants des protestants émigrés de France. Et lorsque la politique autoritaire du premier consul rompt avec les libéraux, Benjamin Constant est exclu du tribunat en 1802. Je vous donne comme ça des périodes pour situer le personnage dans l'histoire. Hein. Alors commence une période d'exil en Allemagne, et une période féconde de sa création littéraire. En 1814, il rentre en France, soutient la cause des Bourbons, mais Napoléon, qui cherche des soutiens chez les libéraux, le charge de rédiger l'acte additionnel et le nomme conseiller d'État. Et au début de la seconde Restauration, Benjamin Constant se réfugie en Angleterre. Mais après la dissolution de la Chambre, il reprend sa place dans l'opposition constitutionnelle. Et jusqu'à sa mort, il va être une des personnalités les plus populaires du Parti libéral. Élu député de la Sarthe en 1819, puis du Bas-Rhin, hein, Strasbourg. Et il est un des orateurs les plus brillants de la Chambre. Et beaucoup de certains de ses livres reprennent justement ses discours à la Chambre. C'est pour ça que Benjamin Constant, c'est un homme de réflexion et c'est un homme d'action aussi. Hein. Ceci malgré les désordres de sa vie privée et ses dettes de jeu aussi. Hein. Il jouait beaucoup. Et il fut un des 221 députés qui donnèrent la couronne à Louis-Philippe. Il meurt le 10 décembre 1830, et on dit que ses funérailles a donné naissance à une vaste manifestation des libéraux. Certains criaient, certains étudiants criaient au Panthéon, au Panthéon. Essayons de voir un peu les trois Benjamin Constant. Le premier, donc ce peintre des paysages intérieurs, c'est l'analyse du moi, c'est l'introspection. Et pour vous mettre un peu dans l'ambiance de l'époque, lors d'une soirée littéraire chez Juliette Récamier, qui était un amour déçu, il lit publiquement Adolphe. Et l'orateur et l'assemblée pleurent. Oui, c'est toute une époque. On avait facilement, l'âme slave ou la larme à l'œil, très facilement. C'est le romantisme, cette période-là, on voit ça dans le Cahier Rouge ou dans Adolphe. Sans doute j'aurais dû avoir telle ou telle attitude vis-à-vis de telle ou telle personne. Très souvent, c'était vis-à-vis de Germaine de Staël. C'est un homme qui réfléchit, qui pense, qui se voit vivre, et qui une sorte de dédoublement de la personnalité. Il est celui qui se juge même lui-même. Et surtout dans sa relation avec Madame de Staël. Il a cette nostalgie de n'avoir pas été à la hauteur de l'amour désiré, recherché, trouvé, puis délaissé. Je cite « Telle est la bizarrerie de notre cœur misérable que nous quittons avec un déchirement horrible ce près de qui nous demeurions sans plaisir. Il a une compassion douloureuse, compassion pour l'autre et pour lui-même en même temps, mais aussi une compassion qui est doublée d'une grande lucidité à l'égard de lui-même. Je cite « On change de situation, mais on transporte dans chacune le tourment dont on espérait se délivrer. Et comme on ne se corrige pas en se déplaçant, l'on se trouve seulement avoir ajouté des remords aux regrets et des fautes aux souffrances. » Sa mère, je l'ai dit tout à l'heure, sa mère meurt en couche 8 jours après sa naissance, et il demeure toujours en quête de cette mère. Il y a toujours un fond de tristesse chez Benjamin. Et il ne faut pas s'étonner alors que son affection et son désir va pour des femmes souvent plus âgées, comme Rousseau. Dans Adolphe, Éléonore, c'est Madame de Staël. Constamment, ce dialogue avec cette dame un peu plus âgée que lui. Benjamin Constant laisse planer le doute. Il dira jamais c'est effectivement cette elle, mais on imagine très, très bien qu'il y a eu à l'époque des commentaires pour savoir si effectivement il s'agissait véritablement d'elle, mais je pense qu'il n'y a pas de doute. Mais il laisse malgré tout planer le doute. Mais Adolphe, c'est Benjamin Constant. Il dit, je cite encore, on a très bien saisi le sens du roman. Il dit ça dans son journal. Il est vrai que ce n'est pas d'imagination que j'ai écrit, connaissant moi-même le malheur. Donc, en faisant parler des personnages fictifs, Benjamin Constant transgresse les barrières de la pudeur liées à l'évocation de sa propre existence et de sa propre souffrance. Donc il y a un certain recul, une certaine distance avec la page écrite. C'est le jeu, comme dit Aragon, hein, du mentir vrai. Hein. Adolphe souffre d'être près d'Elénor. Il souffre aussi d'en être éloigné. Hein. Benjamin Constant dit « La société m'importune, la solitude m'accable. » Donc c'est un homme déchiré. Un homme, mais c'est un homme politique aussi. Hein. C'est pas simplement un homme qui écrit et qui parle de ses relations amoureuses. C'est un homme politique engagé, mais lucide. Hein. Lucide sur ses engagements. Il est engagé pour un monde meilleur. Et donc, comment réconcilier l'amour du vrai et l'amour du bien ? Il y a ça. Benjamin Constant est déchiré entre l'aspiration à l'infini et la conscience de notre finitude. On verra ça dans la troisième partie. Il y a des regroupements entre sa vie sentimentale et sa vie politique. Demeure en lui le sentiment confus d'avoir tué sa mère en sortant de son ventre, en l'abandonnant, mais dans un abandon mortel. C'est une séparation originaire et sacrificielle. Les femmes, plus âgées que lui, jouent un rôle de substitution de la mère. C'est le traumatisme des origines, comme Jean-Jacques. Jean-Jacques aussi... Jean-Jacques Rousseau disait « Je coûtais la vie à ma mère et ma naissance fut le premier de mes malheurs. » Toujours Rousseau, quand mon père me disait « Jean-Jacques, parlons de ta mère », je lui disais « Eh bien, mon père, nous allons donc pleurer. » Mais certainement, et contrairement à Rousseau, Benjamin Constant ne bénéficiera pas de la présence d'un père attentif. De même, Kierkegaard aussi a bénéficié d'un père attentif. Benjamin, lui, il ne connaîtra que des précepteurs assez médiocres, finalement. Après avoir été élevé par ses grands-mères et par la maîtresse du père, il suit son père militaire, il le suit dans les différentes garnisons, aux Pays-Bas, en Belgique, à Bruxelles, en Angleterre, en Suisse. Donc il bénéficie aussi d'une éducation cosmopolite. Il se dit spectateur de sa propre existence. Il dit s'amuser de lui-même. D'un côté, c'est un individu qui se révèle à lui-même et de l'autre, c'est un autre individu qui se débat avec les multiples contraintes de l'existence. Voilà pour le premier Benjamin Constant. Le deuxième Benjamin, c'est celui qui, alors là on entre plus dans l'analyse politique, hein. Et dans l'interprétation de la Révolution française, Benjamin, il dira toujours, enfin, il dit « notre heureuse Révolution ». Et en même temps, malgré ses excès, il dira toujours ça. Et en même temps, il est celui qui, là encore, nous fait bénéficier de son regard lucide sur les événements révolutionnaires. Benjamin Constant n'est jamais revenu sur la nécessité de la Révolution. Il a relégué l'Ancien Régime dans un passé révolu. Il n'a jamais été nostalgique de l'Ancien Régime. Il parle même de sûreté pour caractériser l'établissement de la République contre un monde agité en proie à tous les excès. Benjamin prêche la stabilité des institutions nouvelles. Il dit à ceux qui sont nostalgiques de l'Ancien Régime, aidez-nous à consolider la liberté, à écraser l'anarchie. Donc, il présente le nouveau régime comme étant justement un facteur de stabilité. être respectueux des institutions politiques nouvelles, sans nécessairement adhérer au credo républicain. Il ne demande pas nécessairement à ceux qui sont tournés un peu nostalgiques vers l'ancien régime d'adhérer nécessairement au credo républicain, mais du moins d'adhérer à la nécessité d'un ordre républicain. Donc d'être pratiquant sans avoir la foi, en quelque sorte. Benjamin, il est pour 1789, hein. Il est pour l'acquis de la Révolution, il est pour l'acquis des Lumières, il est pour cette société nouvelle qui est annoncée, mais il est aussi contre la terreur, hein, ce qui est tout de même assez nouveau, assez original. On verra ses arguments. Hein. Pour lui, la terreur n'est pas un moment nécessaire. Hein. Et il n'est pas comme Clémenceau qui disait « la révolution est un bloc hein, ». C'est-à-dire, si vous êtes pour les acquis révolutionnaires, pour les acquis des Lumières, hein, il faut accepter, bon an, mal an, disons, les dégâts collatéraux. Hein. Pas du tout. Hein. Benjamin dit que la terreur n'est pas un moment nécessaire de la dynamique révolutionnaire. Hein. Il est contre tout déterminisme historique, en intégrant des éléments de jugement éthique, dans un champ réduit jusque-là au seul politique. Je cite, « La terreur n'a fait que du mal, et c'est elle qui a légué à la République actuelle tous les dangers qui, aujourd'hui encore, la menacent de toutes parts. » Pour lui, la terreur a dégradé les esprits et flétrit les cœurs. Elle a rendu le peuple inapte à exercer la liberté. Donc, pour Benjamin, les excès de la Révolution ont perverti les individus. Ils ont été préparés à subir le despotisme des puissants. Pour lui, la terreur a corrompu les survivants, a corrompu les âmes, hein, a corrompu les esprits, hein, a rendu les esprits inaptes à être libres, finalement. Et Benjamin Constant veut comprendre ce mal, le domestiquer, contre tout caractère sacré et intouchable de cette révolution. Hein. Il veut comprendre, hein. Il veut analyser. Hein. Pour lui, d'autres solutions étaient possibles, hein, qui ne corrompent pas les esprits et les cœurs. C'est là qu'intervient, dans sa réflexion, ce qu'il appelle le principe intermédiaire. Et il y a un débat avec Kant, hein, avec le philosophe de Königsberg, hein, sur le droit de mentir, qui était tout à fait intéressant. Hein. Pour Kant, il y a une illégitimité du mensonge, et ceci en toutes circonstances. Hein. Le droit à la vérité, hein, c'est un commandement sacré de la raison, hein, pour Kant. C'est un devoir absolu et inconditionné. Pour Benjamin, le principe moral que la vérité est un devoir, s'il était pris de manière absolue et isolée, rendrait toute société impossible. La protection de la vie d'autrui avant toute publication de la vérité. Et il y a ce dialogue assez curieux et même surréaliste, puisque Kant dit, il prend cet exemple, hein, que si vous connaissez le meilleur de vos amis, qui est suivi par des malfrats qui en veulent à sa vie, et si cet ami vient frapper à votre porte de votre maison pour demander d'être protégé, hein. Vous devez le protéger, certes, mais si ensuite ceux qui veulent l'assassiner, 2 minutes après, frappent à la porte et disent « Est-ce que vous avez ce monsieur en question ? Est-ce que ce monsieur en question n'est pas chez vous ?» Vous devez dire la vérité. Parce que la vérité, c'est un devoir absolu, un commandement sacré de la raison. Et donc, vous devez dénoncer votre meilleur ami et quoi, le laisser se faire trucider par les malfrats. Enfin, pour Kant, la vérité, c'est un devoir absolu. Hein. Donc, interdiction de tout mensonge. Donc, il prend cet exemple extrême, enfin, à la limite de l'absurde, hein. Bien sûr que dans ces cas-là, la vie est plus importante, surtout la vie de votre meilleur ami est plus importante que le droit ou l'illégitimité du mensonge. Hein. Bon, ça tombe sous le sens, bien sûr. Hein. Donc, Benjamin Constant dit que le principe moral, que la vérité est un devoir, rendrait la société impossible, effectivement. Donc la protection de la vie d'autrui est plus importante que toute publication de la vérité. Ouais. Et il dit « Nul homme n'a droit à la vérité qui nuit à autrui ». Donc vous voyez, il y a des principes, hein, mais ces principes ne sont jamais totalement absolus. N'est-ce pas ? Il y a des cas spécifiques, bien sûr. Vous pouvez étendre ça, vous pouvez prendre d'autres vis-à-vis de la maladie, trouver dans votre vie personnelle des moments où il est plus important de cacher la vérité quelquefois plutôt que de la dire, et que dire la vérité peut tuer aussi. Hein. Bon. Pour Kant, la véracité, c'est un devoir en soi, hein. Le mensonge est sorti de l'humain, en quelque sorte. Si vous mentez, vous sortez de l'humain, vous allez vers un monde sans règles. Car mentir corrompt la relation à l'autre, tout en faisant insulte à soi-même. Mais que serait un monde au nom de principes absolus érigés en commandements sacrés de la raison ? Il serait un monde invivable. Il serait de notre devoir de dénoncer à l'assassin l'ami venu chercher protection. Enfin, c'est l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Donc, entre les principes justes, mais éloignés du réel, et une réalité mettant en cause des règles abstraites et des incarnées, Benjamin Constant est pour une solution pragmatique. Hein. C'est ça, hein, la solution intermédiaire. C'est le principe intermédiaire. Toutes les fois, c'est lui qui dit, toutes les fois qu'un principe démontré vrai paraît inapplicable, c'est que nous ignorons le principe intermédiaire qui contient le moyen d'application. Donc, il ne faut pas abandonner le principe comme étant inapplicable, mais il faut l'appliquer d'une manière intermédiaire, hein, qui ne soit pas l'absolu, et l'absolu de l'absurde. Hein. Donc, le principe premier doit demeurer l'horizon et la norme structurante. Et pour Benjamin, la société ne résisterait pas à une vérité pouvant se révéler plus nuisible que le mensonge. Mais cependant aussi, la société ne résisterait pas non plus à l'oubli de principes comme le devoir de vérité. Sans principe, c'est l'arbitraire des circonstances toujours changeantes. Hein. Donc il faut maintenir les deux, à la fois le principe et prendre en considération le fait que les circonstances sont changeantes et qu'il faut à la fois écouter les principes et à la fois les mettre en application face à des circonstances toujours nouvelles. Benjamin Constant, c'est aussi celui, alors là on est dans la ligne toujours de l'interprétation de la Révolution, hein, qui s'est opposé à Rousseau. Il s'est opposé à la pensée de Rousseau. Pour Benjamin Constant, les thèses de Rousseau ont nourri les débordements du pouvoir populaire après la Révolution. Il y a un mal inhérent à tout pouvoir, quel qu'il soit. Le pouvoir, après la Révolution, a été déplacé sur le plus grand nombre. Mais le pouvoir en tant que tel n'a pas été remis en cause. Le dogme de la souveraineté populaire est devenu instrument de tyrannie, car le peuple peut se laisser opprimer au nom de sa propre souveraineté. Comme le dit Benjamin, Rousseau avait le sentiment de la liberté, mais pas la théorie. Je cite encore, « Il y a deux dogmes également dangereux, l'un de droit divin, l'autre la souveraineté illimitée du peuple. L'un et l'autre ont fait beaucoup de mal. Il n'y a de divin que la divinité, il n'y a de souverain que la justice. » Hein, c'est beau, ça. Benjamin, il est pour la liberté de l'individu contre la liberté politique à la Rousseau. C'est une liberté politique qui opprime. Il ne veut pas sacrifier la première à la seconde. Dans les textes, en particulier les textes politiques de Benjamin Constant, il y a toujours des mots qui reviennent, et en particulier les formes. Les formes sont les divinités tutélaires des associations humaines. Les formes préservent de l'arbitraire. Les formes sont les seules relations des hommes entre eux. Et c'est aux formes seules que l'opprimé peut en appeler, mais pas à la lettre de la loi. Il dit encore, « L'affreuse loi qui, sous Robespierre, déclara les preuves superflues et supprima les défenseurs est un hommage rendu aux formes. » Les lois sont nécessaires, mais elles ne sont pas sacrées. Là encore, on voit très bien, Benjamin Constant, c'est quelqu'un de pragmatique. C'est un homme politique tout de même. Il a tâté du pouvoir. Donc il sait quels peuvent en être les débordements. Et il essaye de résoudre des problèmes concrets. Et il voit qu'en se confrontant à l'absolu, on en vient à s'opposer à un mur. Donc il essaye de voir comment être fidèle à des principes et en même temps comment être fidèle à la réalité qui est multiforme. C'est une pensée en constante élaboration. Pour lui, il y a des limites au légalisme. C'est le pouvoir qui lui importe. Sa légitimité fait partie des formes changeantes et adaptables. Benjamin ne veut pas en rester à une définition touchant la substance du régime, peu importe pour lui qu'il soit d'essence monarchique ou démocratique. Il dit « Entre la monarchie constitutionnelle et la République, la différence est dans la forme. Entre la monarchie constitutionnelle et la monarchie absolue, la différence est dans le fond. » Donc, peu importe, et effectivement, il y a même encore aujourd'hui... des pays, je pense aux pays scandinaves, qui sont des pays on ne peut plus démocratiques, et pourtant c'est une royauté, vous voyez, donc ils ont une constitution, enfin c'est une monarchie constitutionnelle. Pour lui, peu importe si c'est l'essentiel, c'est qu'il y ait justement des fondements constitutionnels qui permettent justement à la liberté de s'exercer dans certaines limites. Que ce soit une république ou que ce soit une royauté. Donc Benjamin établit des principes et voit ensuite la manière d'en faire une application selon les régimes. Pour lui, aucune autorité n'est illimitée, ni celle du peuple, ni celle des hommes qui se disent ses représentants, ni celle des rois, ni celle de la loi qui doit être circonscrite dans les mêmes bornes que l'autorité dont elle émane. Donc, pour lui, il s'agit de tracer les limites de tout pouvoir, à définir le domaine dans lequel il doit s'exercer. car la tentation de débordement est inhérente à toute fonction. Et Benjamin s'interrogeait comment borner le pouvoir autrement que par le pouvoir lui-même. Ça, c'est Montesquieu. Hein. Car les pouvoirs ne doivent être considérés que comme des moyens, des formes, hein, on retrouve ce terme, hein, orientés vers un seul but, la conservation et l'exercice des droits, mais pas des promesses de bonheur. Là, je cite Benjamin Constant. « Non, messieurs, ne laissons pas faire, quelque touchant que soit un intérêt si tendre, prions l'autorité politique, de rester dans ses limites. Qu'elle se borne à être juste, nous nous chargerons d'être heureux. » Donc, il ne s'agit pas d'attendre du pouvoir politique, quel qu'il soit, de nous apporter le bonheur, hein, c'est pas ça. Hein. Qu'il y ait des bornes pour justement permettre au pouvoir d'être juste et d'appliquer la justice. Le bonheur, c'est à chacun de le décider, hein, c'est notre liberté. Hein, Troisième facette hein, de ce personnage, oui, qui est multiple, hein, c'est un touche-à-tout. Hein. La religion, le sentiment religieux. Hein, je vous ai dit qu'il a son gros livre, qui n'a pas vu le grand retentissement, qui a été réédité il y a, en 2000, mais qui avant n'était pas tellement accessible. Enfin, il n'a pas eu beaucoup de retentissement à l'époque. C'est un ouvrage d'anthropologie religieuse. Hein. C'est pas de la théologie, c'est pas de la philosophie. C'est l'analyse du sentiment religieux. Là, on est en plein dans le 18e, 19e. Hein. Le titre, c'est « De la religion considérée dans sa source, ses formes et ses développements ». Voilà ce qu'il dit de la religion, du sentiment religieux. Nous éprouvons un désir confus de quelque chose de meilleur que ce que nous connaissons. Le sentiment religieux nous présente quelque chose de meilleur. Nous sommes importunés des bornes qui nous resserrent et qui nous froissent. Le sentiment religieux nous annonce une époque où nous franchirons ces bornes. Nous sommes fatigués de ces agitations de la vie qui, sans se calmer jamais, se ressemblent tellement qu'elles rendent à la fois la satiété inévitable et le repos impossible. Le sentiment religieux nous donne l'idée d'un repos ineffable, toujours exempt de satiété. En un mot, le sentiment religieux est la réponse à ce cri de l'âme que nul ne fait taire, à cet élan vers l'inconnu, vers l'infini, que nul ne parvient à dompter entièrement de quelque distraction qu'il s'entoure, avec quelque habileté qu'il s'étourdisse ou qu'il se dégrade. Ouais. Le sentiment religieux, c'est ça. Hein. Ça nous annonce un monde qui nous dépasse et qui dépasse les vaines agitations de la vie. Hein. Et ça nous oblige à nous dépasser, hein, à nous dépasser lui-même. C'est un repos, c'est un cri de l'âme. Hein. C'est toujours une incitation à faire mieux, à transformer notre monde. Oui, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Hein, Benjamin Constant, il vient... avant les maîtres du soupçon, hein, bien sûr, Marx, Nietzsche, Freud. Hein. Marx, pour qui la religion, c'est le cri de la misère sociale. Hein. Pour Nietzsche, c'est le ressentiment du faible. Hein. Et pour Freud, c'est une illusion. Hein. Non, chez Benjamin Constant, c'est au contraire cet élan vers l'infini hein, qui nous incite à nous dépasser nous-mêmes. Hein. C'est un côté très, espérances en action. Hein. C'est quelque chose de très actif. Hein. Et c'est un cri de l'âme. Hein. C'est un sentiment indestructible, non limité à une douleur sociale, comme chez Marx. Hein. C'est une composante existentielle fondamentale à la nature humaine. Pour Benjamin Constant, c'est une forte aspiration à l'infini, et en même temps, c'est une force conscience de notre finitude. Hein. C'est les deux, toujours. Hein. C'est pas du tout l'aspiration des dogmes. Là encore, c'est comme Rousseau, c'est la religion naturelle, hein. C'est le sentiment religieux. Hein. Et en même temps, c'est une incitation à voler au secours de l'opprimé. Hein. Il le dit lui-même. S'il faut étouffer le sentiment religieux parce que, dites-vous, il nous égare, il faudra supprimer ce bouillonnement du sang qui nous fait voler au secours de l'opprimé. Car il n'est pas de notre intérêt d'appeler sur nos têtes les coups qui ne sont pas destinés à nous atteindre. Il faudra surtout, songez-y bien, renoncer à cette liberté que vous chérissez. Car d'une extrémité de la terre à l'autre, le sol que foule la race humaine est jonché des cadavres de ses défenseurs. Ouais, c'est une aspiration à aller au secours de l'opprimé. Enfin, c'est un vocabulaire que l'on n'utilise plus aujourd'hui. Mais enfin, ouais, c'est quelque chose qui est fondamentalement quelque chose de la révolution sociale. Hein. Donc, c'est une aspiration, une morale plus élevée pour anoblir toutes les vertus. Hein. Le sentiment religieux, c'est l'expérience faisant partie intime de la vie intérieure. C'est l'infini dans le fini. Et pour lui, l'expérience religieuse est au centre de la vie humaine. C'est la dernière espérance de l'innocence qu'on immole. Hein. Benjamin Constant ne sépare pas l'élan religieux de la question sociale. Le sentiment religieux est ce pont lancé pour joindre l'infini, c'est-à-dire l'accomplissement de notre vie ici-bas. Et le sentiment du divin transcende les siècles, il n'est lié à aucun temps. Chaque époque, dit-il, a eu ses inspirés. Rien d'historique quant au fond, mais tout est historique dans ses développements. Rien n'est fixe, rien n'est immuable. Tout est en progression, en adaptation, variable et transitoire. Donc, il y a un rôle évolutif de la religion. Hein. Chaque époque a ses messies. On prend les messies, les dieux d'une période. L'essentiel, c'est pas tellement là encore, c'est pas le dogme, c'est plutôt l'aspiration à un infini, l'affirmation à un meilleur monde. Vous voyez que Benjamin Constant parle de la religion, du sentiment religieux. Hein, c'est pas nous sommes loin d'un Benjamin Constant confessant évangélique. Hein, c'est pas du tout ça. Hein, Benjamin Constant, c'est un anthropologue de la religion. Il analyse et observe avec rigueur et érudition les formes adaptées par le sentiment religieux au cours des siècles et sous différentes civilisations. Donc, pour lui, le sentiment religieux est du côté de la nature. La nature est positive, comme chez Rousseau. Hein. Il est nostalgique d'une nature bienfaisante, d'un arrière-monde vierge de toute intervention institutionnelle. Ça, c'est Rousseau. Hein. Et alors, et dans cette grande somme de la religion, alors là, il est vraiment très dur à l'égard de ce qu'il appelle la caste des prêtres. Hein. Alors, il fait un amalgame entre la forme et le fond, hein, le transitoire et le fixe. Hein. Pour Benjamin Constant, les prêtres ne sont pas plus mauvais que d'autres êtres humains. Ils sont même nécessaires à l'éveil du sentiment religieux. Mais il fait une distinction très nette entre les religions, ce qu'il appelle les religions sacerdotales ou révélée, et ce qu'il appelle les religions libres ou naturelles. Alors, les religions sacerdotales ou révélées, où il y a des formes et des rites qui sont immuables. Alors, il met là-dedans les Égyptiens, les Hindous, les Perses, le catholicisme aussi, hein. Et les religions libres ou naturelles, la religion des Grecs, le protestantisme, enfin... Pour lui, c'est un protestantisme hyper-libéral, hein, qui vise. Hein. Il parle juste un moment de Schleiermacher, hein, pour parler de l'infini dans le fini. Hein. Et il y a un très grand anticléricalisme chez Benjamin Constant. Hein. Bah, c'est toute l'idéologie républicaine de l'époque. Hein. C'est les prêtres... doivent suivre les nobles, hein. c'est ça. Hein. Il est très contre l'Église romaine. Il y a un double rejet. Hein. L'Église catholique, hein, et l'État aussi. Hein. Bon, l'État, pour lui, c'est Napoléon, tout de même. Hein. C'est la dictature napoléonienne. Hein. Donc, on voit là le libéral. Hein. Il dit qu'au sujet de l'Église romaine, il dit « On ne crut plus à rien parce qu'il fallait tout croire. Hein? » Donc, il y a tout de même toujours cette opposition à tout ce qui ressemble plus ou moins à un dogme. Hein? Pour lui, alors je prends cette citation. Ouais. Ah oui. Précisément parce que la politique romaine s'était emparée de la religion et en repoussait toute nouveauté, pour que l'instrument restât plus sûrement dans sa dépendance, la religion en tant qu'immobile perdit son principe de vie, la perfectibilité, et en tant qu'esclave, sa puissance réelle, la conviction. On ne crut plus à rien parce qu'il fallait tout croire. Pour lui, la foi est la base de toute morale, de toute attitude altruiste. Et le libéralisme politique et économique a besoin justement de cette vertu impulsée par la religion. Il a besoin d'encadrer la liberté par des principes supérieurs. Vous voyez que les choses sont liées. Hein. La liberté politique... est accoudé à cette aspiration à un monde meilleur, à cette aspiration à un absolu, hein, qui se concrétise par la liberté. Il faut contenir les penchants personnels contre le penchant naturel à la bassesse et à la compromission avec le plus fort. Alors, il a cette phrase, je vous laisse l'interpréter, où il dit que, je cite, « Je suis trop sceptique pour être incrédule. » Ah oui, il y a tout de même un cheminement spirituel, vous verrez, là, à la fin de sa vie, il y a d'autres attachements. Enfin, donc, pour lui, le doute chemine avec la foi. Hein. Et d'ailleurs, dans sa jeunesse, il voulait écrire un ouvrage sur Helvétius. Pas du tout chrétien, hein. c'est toujours le 18e siècle, c'est l'aspiration à un monde délivré du sentiment religieux. Là. C'est l'apologie du paganisme contre le christianisme. Hein. Mais avec l'âge, il passe du scepticisme juvénile à l'incrédulité surmontée, mais toujours en se regardant croire comme il se regarde aimer. Hein. C'est toujours la prise de conscience perpétuelle de lui-même par lui-même. Et lorsqu'il a 40 ans, en 1807, c'est son cousin qui l'entraîne dans une assemblée, peut-être une secte, enfin une assemblée de piétistes de Lausanne qui s'intitulait « Les armes intérieures », qui était nourrie de Fénelon, de Madame Guyon, à la fois pure et nue, enfin, vous voyez, donc, il a un cheminement spirituel, quand même. Hein. C'est pas simplement... on peut pas se limiter à son livre sur la religion. Enfin, il y a comme ça des incartades hein, spirituelles. Hein. C'est le thème de l'abandon à la volonté de Dieu, une paix pleine de douceur. Il donne ce qu'il dit. Et 10 ans plus tard, il y a un nouvel épisode piétiste sous l'influence de Madame Krudener, au pied de la croix. Ouais, alors là, c'est nettement plus confessant. Voilà ce qu'il dit. Il confie alors que la plupart des dogmes que j'avais rejetés, l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, me parurent non pas démontrés par la logique, mais prouvés par une sorte d'expérience intérieure. Hein. Ce qui est important, c'est ce que l'on ressent. Hein. Et donc, et alors il dit, je cite encore Benjamin, hein, donc sous l'influence de Madame Krudener, et voilà ce qu'il dit, « Dieu de bonté, source d'amour, d'indulgence et de paix, j'ai plus d'une fois, en t'invoquant, senti le calme qui descendait dans mon âme. En m'humiliant au pied de cette croix, symbole d'affection, de sacrifice et de douleur, j'ai senti des larmes remplir mes yeux. Je viens de nouveau vers toi, je t'implore contre les hommes et surtout contre moi-même. » C'est dans une lettre, hein, c'est dans une lettre qu'il dit ça, je crois qu'il dit ça à sa cousine. C'est très curieux, hein, cet homme qui semble plus intéressé à l'exaltation du sentiment religieux, mais comme nécessaire à toute transformation sociale. Et tout de même, il a ces moments d'abandon piétiste hein, qui renforce un peu en complexité, je dirais, la personnalité de Benjamin Constant. Hein. Et cette aspiration à une paix pleine de douceur. Donc, c'est un protestant critique, il le dit lui-même, hein, et protestant critique qu'il souhaite une nouvelle réforme, créer des formes nouvelles. On retrouve ce terme, hein. Une liberté sur fond de morale plus élevée. Hein. C'est ça le sentiment religieux. Et on voit que Benjamin, c'est tout de même cet homme à la fois riche, complexe, qui a un peu touché à tout. Hein. À la fois dans le premier, Benjamin, c'est l'introspection. Le deuxième, c'est cette réflexion sur la société, et en partie à partir de la Révolution. Hein. Et le troisième, sur le rôle de la religion, du sentiment religieux dans notre itinéraire personnel, mais aussi comme venant féconder hein, la société afin que nous ne soyons pas résignés par ce monde inhumain, mais que nous soyons toujours appelés à le transformer afin de le rendre plus conforme à ce qui nous est dit, à ce qui nous est révélé et à ce qui nous a été transmis, à savoir un monde meilleur, un monde plus humain. Voilà, je vous remercie. Oui, madame. C'est pas. Oui. Mais bon, apparemment, il en parle pas beaucoup. Dans non. Il en parle pas beaucoup. Rousseau en parle plus. Je crois que c'est son éducation a été à la fois cosmopolite, comme je l'ai dit, et puis il était un peu trimballé de garnison en garnison. Je crois qu'il n'a pas eu un bon souvenir hein, de ses jeunes années. Hein. Non, il ne parle pas beaucoup. Il se dit protestant, incontestablement. Hein, donc, mais ce n'est pas un théologien, hein, mais... Il pense plutôt la société, il pense plutôt le sentiment religieux, et en même temps, il est celui qui a eu ces fulgurances mystico-piétistes, hein, mais qui ne sont pas le centre de son œuvre, mais bon, il a essayé partout hein, de satisfaire cette aspiration qu'il considère... partagé par tout un chacun. Enfin, il considère que tout être humain a en lui justement cette aspiration à un absolu, à un infini, enfin, qui l'aide à cheminer. Hein. Mais en même temps, c'est il y a un côté très pragmatique. Enfin, c'est oui, monsieur.
Mais j'aurais voulu savoir parce que ça n'apparaît pas tellement dans l'exposé que vous avez fait. Ouais.
Non, effectivement. Non, il n'y a pas... C'est pas comme Rousseau qui, lui, étudie la Bible. Hein. Non, on ne sent pas tellement. Non. Oui, monsieur.
Vous avez évoqué un parti libéral auquel il s'est rattaché.
Ouais, ouais.
C'est un parti constitué, ouais. Simplement un courant de pensée. Et dans un autre cas, d'où venait ce courant, ce mouvement, quelles étaient les racines?
Ouh là là, j'ai. Pouf. Je sais pas. Enfin, vous savez, c'est Benjamin Constant, disons, dans la zone culturelle française, c'est lui qui a vraiment structuré le libéralisme, afin que ce soit libéralisme politique. Laisser faire, laisser passer, c'est Benjamin Constant. Hein, c'est pas Adam Smith. C'est lui qui a donné une structure politique au libéralisme. Non, il parle pas tellement. Non. On pourrait penser que Locke, Rousseau, enfin Locke surtout. Enfin, mais non, pas tellement. Mais c'était dans l'air du temps. Hein, c'était dans l'air du temps. C'est un homme pragmatique. Hein, donc c'est un homme politique qui. Non, il parle beaucoup de Montesquieu pour les pouvoirs, la limitation des pouvoirs. Ça, il en parle énormément. Et il dialogue beaucoup. Et il croise le fer avec Rousseau, hein, avec lequel, vous voyez, il n'est pas très, très d'accord. Il y a un regard à la fois critique et éthique sur la Révolution. Hein. Pardon ? Non, il ne le cite pas, non. 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 Belle, ce serait plutôt pour la tolérance, pour... Non. Mais c'est à creuser, effectivement, d'où, dans ces différents ouvrages, j'essaye de réfléchir comme ça en parlant, mais il n'y a pas véritablement d'auteur qui... Non. Il y a un auteur italien, Villangeri, enfin, qui dialogue avec lui. Enfin, il a écrit tout un ouvrage là-dessus, qui était aussi... mais je vois pas vraiment... non. Ce serait plutôt les anglo-saxons, hein, qui, dans ce cas-là. Mais c'est contemporain. Hein, c'est contemporain. Hein. Oui, madame. Oui. Ah oui, bien sûr. Mais non, mais il y a l'idée de progrès, hein, donc, qui est aujourd'hui l'idée de progrès, on ne sait plus très bien où la mettre. Mais à l'époque, tout le monde en parlait. Hein, c'était... Et donc, il considérait qu'il y avait aussi un progrès inhérent à chaque révolution, que chaque âge devait avoir L'aspiration religieuse, elle est inhérente à chaque être humain. Mais disons, les formes, là encore, pour lui, les dogmes, tout ce qui était, disons, théologie, alors là, c'est, comme chez Rousseau, c'est du dogme. Hein. Alors là, c'est une contrainte, non. C'est plutôt, ce qui est très moderne, c'est l'aspiration personnelle à une élévation religieuse. Alors là, on retrouve des thèmes actuels. Hein. Mais pour ce qui est une structuration intellectuelle d'une pensée religieuse, dans tout son gros ouvrage, je dis que c'est une anthropologie religieuse parce que c'est même très intéressant parce qu'on voit ce que pouvait être, même si le mot n'existait pas, une sociologie religieuse à la fin du XIXe siècle. Hein, au début du XIXe, XVIIIe, XIXe. Donc, son ouvrage est un ouvrage très encyclopédique. Hein, ça sent l'encyclopédie, une compilation de savoir. Mais pour lui, on revient toujours à ça. Hein, y a deux types de religions, les religions de liberté qui suivent le progrès, qui s'adaptent. Hein, il faut s'adapter. Et d'autres religions qui sont figées, et qui ne savent pas s'adapter et qui se... La religion des prêtres qui défendent leur pouvoir. Là, c'est très caustique à l'égard des prêtres. C'est... Oui, il y avait une main levée là, oui.
Est-ce qu'il a eu des relations avec François Guizot ? Est-ce qu'ils ont travaillé ensemble ? Est-ce qu'ils étaient
politiques ? Oui, non, oui, parce que vous avez eu une conférence sur Guizot. Non, il n'en parle pas, non, il n'en parle pas, non. Non. Oui. Il a été député, député de la Sarthe et député du Bas-Rhin. Il a tout de même travaillé, avant de rompre, il faisait partie du tribunat, donc il a... œuvré pour l'acte additionnel, il a été conseiller d'État du temps de Napoléon, puis ensuite il a rompu. C'est un homme qui a œuvré pour donner une assise constitutionnelle à la République. Ça a été son grand travail. Hein. Et en même temps, c'était tout de même un homme politique. Donc il y a beaucoup de textes de Benjamin Constant qui sont des reprises de ses discours à l'Assemblée. Hein. Et donc il y a un style très clair. Hein. C'est pas uniquement le style homme de bibliothèque, c'est plutôt l'ouvrage sur la religion. Mais les ouvrages politiques, c'est plutôt une reprise de discours. Et donc c'est très incarné dans l'actualité. Et, il essaie justement de résoudre des problèmes concrets. Hein. C'est un homme qui réfléchit, une grande pensée politique, hein, incontestablement. Hein.
Par rapport à sa littérature,
ouais. Oui. Et même encore maintenant, bien sûr. Il y a beaucoup de commentaires. Marcel Gauchet, oui, bien sûr. Oui, c'est tout de même un grand inspirateur de la pensée. Libérale, ça, incontestablement. Mais un libéralisme, ce que j'ai essayé de montrer, qui n'est pas du tout le libéralisme qui est souvent présenté en France comme étant, proche d'un certain exclusivisme de l'argent. C'est pas du tout ça. Hein. C'est une pensée libérale, la liberté contre Napoléon, la liberté contre un pouvoir fort, c'est l'aspiration individuelle. Et là, c'est lié aussi à son expérience religieuse. Hein, c'est la liberté intérieure aussi, pas simplement la liberté extérieure d'exprimer ses propres convictions, mais aussi une conviction interne qui rend possible justement de ces sociétés. Hein. Donc, le libéralisme politique et économique est adossé tout de même à une certaine éthique qu'on a oubliée. Hein. Mais on a oublié aussi que Adam Smith était professeur de morale. Hein. Avant d'en faire un économiste, c'était tout de même avant tout un professeur de morale. Comme quoi on a séparé les deux, on a séparé la morale de l'économie, la morale de la politique, et pour quoi ? Pour faire de l'argent, pour faire de l'argent, quoi. Alors que là, c'était tout de même pas ça. Hein. Il y a une certaine noblesse du libéralisme qui est très différente de ce qu'on présente aujourd'hui souvent comme un véritable repoussoir, alors qu'on ne va pas au texte. Et si on veut comprendre le libéralisme, il faut d'abord lire Benjamin Constant, ça me paraît tout de même plus indiqué, et on se rend compte que ce n'est pas du tout un conservatisme, hein, ce n'est pas du tout ça, et ce n'est pas du tout une recherche de l'argent pour l'argent, de la prospérité pour la prospérité. Hein. C'est quelque chose de très fort, enfin, l'aspiration à un monde meilleur pour tous. Enfin, il y a des textes que j'ai pas lus, mais qui sont des textes en faveur d'une transformation de la société en profondeur, hein, pour qu'il n'y ait pas d'excuses, hein, incontestablement. Hein.
Oui. Je voudrais simplement, sur le littérateur-écrivain, ouais. C'est un écrivain important, même si son œuvre est mince.
Ah oui, oui, oui.
Et c'est une très belle langue, et c'est un des premiers.
Ah oui. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Oui, mais même pas simplement dans le Gay Rouge ou dans Adolphe, mais même ses écrits politiques, il faut les lire, parce que c'est très beau, c'est une belle langue. Hein. Il y a un côté comme ça, on sent très bien que ça, certains, c'est des discours, hein, c'est destiné à être proclamé comme ça. Il y a du souffle. Hein, Oui, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Non, c'est pas la liberté comme ça. C'est au contraire, c'est une liberté qui est bien réfléchie. Ah oui, oui, non, ça s'articule. Hein, oui. Oui, déjà, ce que je vous ai dit là au sujet, là, ce débat avec Kant, enfin, c'est très révélateur. Hein, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, hein, enfin, qui défend pas un absolu irréalisable. Hein, et, au contraire, justement. C'est une invitation à réfléchir pour lui. Hein. C'est ce stade intermédiaire qui il faut être à la fois fidèle au principe et puis fidèle aussi à la réalité qui n'est pas la reproduction d'une idée comme ça évanescente supérieure. Hein. Au contraire, c'est une pensée en mouvement. Hein. C'est ça qui est intéressant chez Benjamin Constant. Hein. Et en même temps, c'est bien dit. Enfin, c'est pas lourd quoi, comme expression ça.
Merci.